Bonsoir. L'ultimatum lancé au FDLR par la RDC et la communauté internationale pour déposer volontairement les armes a expiré le 2 janvier 2015 dernier. Dans un communiqué publié le même jour, le gouvernement congolais a regretté qu'en dépit de toutes les exhortations, seuls 26% de l'effectif total des FDLR ont désarmé. L'option militaire est désormais devenue inévitable, a-t-il ajouté. Quelle analyse faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Baudouin Amouli Kabarouza, coordonnateur national de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Monsieur Kabarouza, bonsoir.
Bonsoir.
Lieutenant-colonel Félix Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Descartes Mpongé, président de la société civile du Sud Kivu. Monsieur Mpongé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kati.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Radio Kati. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokati.net.
Vous le savez, le 2 janvier 2015 dernier a expiré l'ultimatum lancé au FDLR par la RDC et ses partenaires internationaux pour déposer volontairement les armes. Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer les maigres résultats de cette opération. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Alors qu'expirait vendredi 2 janvier l'ultimatum lancé au FDLR par la RDC et ses partenaires internationaux pour déposer volontairement les armes, le gouvernement congolais a affirmé que l'option militaire est désormais devenue inévitable face à ces rebelles Hutus rwandais qui n'ont pas désarmé. Dans un communiqué lu à la RTNC, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a regretté qu'en dépit de toutes les exhortations et incitations diverses, le processus de désarmement volontaire des FDLR n'a pas produit les résultats escomptés. D'autres voix se sont levées pour demander qu'il n'y ait pas de prolongation. C'est le cas du diplomate américain Russ Feingold et du président de la mutuelle des ressortissants de Lubero au Nord Kivu. De son côté, le chef de la MONUSCO dit déplorer surtout le fait que, malgré tous les efforts consentis par le gouvernement congolais et la communauté internationale, la reddition de ce groupe armé se soit soldée par un échec.
La première priorité, c'est maintenant vraiment le combat et les actions, les opérations militaires contre les FDLR. C'était un processus qui n'était pas crédible, qui n'était pas sincère. On a dépensé 1,6 million de dollars pour maintenir les camps à Kisangani, à Kanyabayonga et Valungu, et ça produit 357 ex-combattants. On n'avait pas des généraux des FDLR qui se sont rendus sur le processus de désarmement volontaire.
Entre-temps, la traque proprement dite des rebelles rwandais de FDLR n'a toujours pas commencé.
Merci Berry Franklin Luchaka. Baudouin Amouli Kabarouza, vous êtes coordonnateur national de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et IRGEL. Est-ce que vous confirmez le bilan négatif établi par le gouvernement congolais dans l'opération de désarmement des FDLR?
Oui, affirmatif. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Le bilan est tout à fait négatif. Nous aurions souhaité, bien sûr, que les FDLR respectent leurs engagements. Il faut rappeler que ce sont les FDLR eux-mêmes qui avaient proposé un désarmement volontaire. Les ministres de pays SADC et CIRGL ont donné jusqu'à 6 mois, ce qui était d'ailleurs un problème parce que on en disait que le délai était très long. Mais 6 mois sont écoulés et malheureusement, nous voyons que les FDLR n'ont pas respecté leurs engagements.
Alors...
Ça, c'est très grave et le gouvernement n'a fait que constater cela.
Alors, en parlant du nombre, le gouvernement parle de 26% qui peuvent être estimés à combien des FDLR sur le total estimé?
Bon, si vous regardez très bien, 26% de, ça ferait à peu près 1500 FDLR au total sur le territoire congolais, autour de ça, autour d'un effectif de 1500 environ. Ils peuvent être un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus, mais nous sommes autour du chiffre de 1500 personnes.
Et il n'y aurait que 300 à peine qui se seraient rendus.
Oui, tout à fait affirmatif. Il y aurait à peu près 26% qui se sont rendus. Et normalement, bon, on devrait avoir plus, hein. C'est dommage.
Alors, si on devrait aller dans les hypothèses de votre point de vue, qu'est-ce qui aurait poussé les FDLR à ne pas désarmer en grand nombre?
Bon, théoriquement, il n'y a pas eu de problème, puisqu'il n'y avait ni action militaire, ni contrainte de la population, ni rien. Nous n'avons pas vraiment les raisons, nous comprenons pas vraiment les raisons de ce désarmement assez faible. Les responsables du FDLR ne nous ont pas dit pourquoi le nombre est si faible. Il y a peut-être très peu de motivation de leur part, mais nous voyons que c'est très grave et qu'ils s'exposent, comme nous avons dit, à des actions militaires.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent que les leaders locaux, notamment du Nord et du Sud, qui vous n'auraient pas été suffisamment impliqués dans cette opération pour sensibiliser les FDLR?
Ce n'est pas leur responsabilité. Il faut savoir que les FDLR sont un groupe armé, qui est présent illégalement sur le territoire congolais et qui menace les populations congolaises. Donc il y a eu beaucoup d'exactions de la part des FDLR. Il faut savoir que la population, les gens ordinaires, les paysans qui ne sont pas armés ne peuvent pas réellement faire grand-chose devant une force qui est armée. Ce n'est pas leur responsabilité et c'était assez dangereux qu'on les appelle à cet effet.
Alors, après le 2 janvier 2015, les opérations militaires devraient commencer. Pourquoi elles ne l'ont pas encore été?
Pardon?
Les opérations militaires avaient été annoncées après le 2 janvier 2015. Pourquoi elles n'ont pas encore commencé?
Les opérations militaires n'ont pas commencé, mais les opérations commenceront certainement.
Est-ce qu'on ne serait pas là, à comprendre votre réponse, on ne serait pas en train de tergiverser ce que craignaient presque plusieurs observateurs?
Oui, nous déplorons cette tergiversation et ils vont en subir les conséquences.
Alors, le gouvernement se dit choqué, la communauté internationale de même, mais on sait par exemple qu'il y a un rapport des experts des Nations Unies qu'a sorti RFI, dans lequel il fait état de certaines connexions entre les FDLR et l'armée congolaise.
Ce rapport, nous avons pris connaissance de ce rapport également, mais je ne peux pas, à ce stade, confirmer. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de faits. Le rapport engage les experts des Nations Unies, donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus.
Voilà, lieutenant colonel Bass, vous êtes porte-parole militaire de la MONUSCO. Vous confirmez également ce bilan négatif par rapport au désarmement des FDLR.
Mais tout à fait. Je pense que la communauté internationale, l'Union africaine, la SADC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que le gouvernement congolais, ont tout mis en œuvre pour faciliter la reddition volontaire telle qu'exprimée par le responsable des FDLR en date du 18 avril 2014, exprimant ainsi leur volonté de faire reddition sans condition à partir du 30 mai 2014. Alors il a été constaté, suite à ce délai qui leur a été accordé à partir du 2 juillet 2014 à Luanda, à l'issue de la conférence qui s'est tenue là-bas, des ministres des Affaires étrangères, mais aussi des ministres de la Défense de tous les pays de la SADC et de la CIGLR, il s'avère que à la fin de ce délai, les FDLR n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient pris. Et par conséquent, toutes les décisions ou toutes les conclusions devaient être tirées à partir de cela. Et la seule conclusion qui a été posée, c'est l'action militaire qui a toujours été mise sur la place et sur la table. Et les FDLR n'ayant pas respecté leurs engagements, et évidemment, les mesures ou les décisions idoines seront prises en temps opportun pour justement mettre un terme aux activités négatives des FDLR, aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu.
Alors le temps opportun, c'est quand? J'ai presque posé la même question à Baudouin Amouli. Le temps opportun, c'est quand? Après le 2, on est déjà le 8, ça fait 6 jours. Pourquoi les opérations militaires n'ont pas encore commencé?
D'abord, il faut comprendre une chose. Les opérations militaires qui sont prévues à cet effet ont fait l'objet d'une planification rigoureuse impliquant tous les acteurs, aussi bien humanitaires, les FRDC, la MONUSCO, mais aussi toutes les autres sections substantives de la MONUSCO qui devraient aussi concourir à faciliter cette reddition, à faciliter cette reddition forcée. Parce que il faut bien préciser que la reddition volontaire n'ayant pas eu lieu, il convient de tirer les conclusions. Maintenant, les opérations militaires, comme on le dit souvent, il n'a jamais non plus été indiqué dans ce délai qui avait été imparti au FDLR que les opérations militaires démarreraient forcément le 3. Je pense que nous sommes encore dans cette fourchette. Ça fait exactement 5 ou 6 jours que ce délai a expiré. Eh bien, je pense que ce soit les représentants spéciaux, aussi bien de la MONUSCO, de l'Union africaine, de la SADC, de la CIGLR, et même le mécanisme conjoint élargi. Aussi, tous ces gens ont constaté que, après ce délai-là, les FDLR ne sont pas pliés à leur promesse initiale. Parce que n'oubliez pas que c'est le responsable des FDLR qui avait, au mois de juillet, annoncé publiquement, au mois d'avril, excusez-moi, annoncé publiquement qu'il se rendrait à compter du 30 mai 2014 et devant témoin. Donc ceci, on voit que les résultats sont très faibles, compte tenu de ce qui avait été prévu, parce que n'oubliez pas toute la logistique qui a été mise en place. Je pense que le représentant spécial du secrétaire général l'a clairement indiqué tantôt, que plus d'un million de dollars ont été dépensés en termes de contribution, en termes de soutien à ce processus-là, et pendant longtemps, le camp de Kisangani est resté vacant. Donc, je pense que aujourd'hui, il convient de relever deux choses. Deux points sur lesquels il y a un consensus. Premièrement, que le processus de reddition volontaire tel qu'exprimé par les FDLR n'a pas été un succès. Ça, c'est la première chose, le premier consensus. Le deuxième consensus, c'est que tout le monde est d'accord qu'au compte tenu de l'échec de ce processus de reddition volontaire, que l'action militaire s'imposait. Mais il a toujours aussi été indiqué que l'action militaire à elle seule n'était pas suffisante. Il y a autre chose qui doit accompagner l'action militaire. L'action militaire servira à mettre la pression sur les éléments des FDLR afin de les désarmer de force, puisque volontairement ils n'y ont pas été. Mais tout ceci concourt tout simplement à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, a été le théâtre des exactions diverses des FDLR, aussi bien au nord qu'au sud Kivu, et même un peu au nord du Katanga.
Alors, l'action militaire à elle-même ne suffit pas, lieutenant-colonel Bass. Autre chose, c'est quoi?
Mais vous savez, le problème FDLR requiert une approche holistique. Il ne s'agit pas tout simplement de l'approche militaire. L'approche politique a été mise sur la table, elle a été quand même expérimentée. L'approche diplomatique, n'en parlons pas, sans compter toutes les rencontres, tous les bons offices, toutes les facilitations qui ont été initiées, entreprises par tous ces acteurs, aussi bien régionaux qu'internationaux. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire tout simplement que dans cette approche holistique, l'option militaire est un élément clé, compte tenu de l'échec du processus de reddition volontaire. Il s'agit maintenant d'aller vers une reddition forcée. Nous avons les troupes, nous avons la motivation, nous avons les moyens, et nous demandons encore à FDLR, parce que même si les opérations militaires démarraient, il n'est pas question de les empêcher de venir se rendre. Tous ceux qui exprimeront face à la pression militaire leur désirent de venir se rendre aussi bien au FRDC qu'à la MONUSCO sont les bienvenus parce que les portes des 3 heures de la MONUSCO restent ouvertes.
Baudouin Amouli, je reviens à vous avant de donner la parole à Descartes Mpongé. Est-ce que la RDC s'est sentie suffisamment soutenue dans cette opération?
Oui, absolument. La RDC est absolument soutenue dans l'ensemble du processus. Il faut savoir qu'il y a eu 2 ou 3 sommets des chefs d'État, 2 mini-sommets des chefs d'État, 2 sommets des chefs d'État à Luanda. Il y a eu 3 réunions des ministres SADC, CIRGL sur ce problème depuis le mois de juin jusqu'à maintenant. La SADC travaille main dans la main avec la RDC. Tous les pays SADC donc travaillent main dans la main avec la RDC. La CIRGL, tous les pays de la CIRGL travaillent main dans la main avec la RDC dans ce processus. Les Nations Unies à travers la MONUSCO, les envoyés spéciaux sont avec nous. Donc c'est un processus non seulement de la RDC, mais de la communauté internationale. Et nous allons ensemble poursuivre cet effort jusqu'à l'aboutissement de notre objectif, c'est-à-dire le désarmement de toutes les forces négatives de l'Est de la RDC.
Voilà, merci Baudouin Amouli Kabarouza. Je crois que vous l'avez compris, il a fait son entrée dans ce studio parce qu'on avait commencé avec lui au téléphone. Descartes Mpongé, est-ce que vous êtes en ligne, vous nous suivez?
Oui, je suis en ligne, je vous suis.
Merci, je rappelle que vous êtes président de la Société Civile du Sud Kivu. Comment vous analysez l'échec de l'opération de désarmement volontaire des FDLR?
Oui, en fait, je dois commencer mon propos par rappeler d'abord les conséquences de la présence des FDLR en République démocratique du Congo. Parce que ce point est important pour savoir pourquoi, en fait, il faut envisager des mesures sérieuses, non complaisantes. En fait, la présence des FDLR constitue d'abord le casus belli pour le Rwanda, qui a même franchi à l'époque les frontières nationales et qui ce n'est pas écrit qu'ils soient encore disposés à franchir les frontières de la République démocratique du Congo à la recherche de ces FDLR. Donc il est important que nous puissions couper pour à ces prétextes des Rwandais d'entrer chez nous. Le deuxième aspect, ce sont les massacres des populations civiles que nous avons déplorés par-ci, par-là, au nord Kivu et au sud Kivu principalement, à Kanyola, à Kamananga, dans les territoires de Calais, à Chabunda, à Mumbili. Et en un certain moment, ils sont arrivés à demander cette fille vierge à Kitindi pour qu'il n'attaque pas les populations de ces villages Kitindi. Voilà pourquoi, à part ça, il y a les pillages des ressources naturelles qui sont aussi, qui constituent aussi les causes, ou bien parmi les causes de la présence des FDLR, qui pérennisent même la présence des FDLR ici chez nous en République démocratique du Congo. Maintenant, pour revenir à votre question, aujourd'hui nous suivons, on pensait d'ailleurs que la Somalie était très loin quand les mouvements Chebab, quand les mouvements terroristes avaient commencé, mais aujourd'hui, au fur et à mesure que l'État évolue, nous sentons qu'effectivement, le terrorisme a rejoint les pays frontaliers de la République démocratique du Congo et donc il n'est pas exclu que les FDLR puissent aussi s'allier à ces terroristes et commettre encore beaucoup de dégâts. Donc il est important qu'une solution définitive soit trouvée par rapport à cette question. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, notre lecture est principalement égard à tous ces bilans-là, à tous ces impacts négatifs. Il est important que l'on arrive à démobiliser les FDLR. Malheureusement, le processus volontaire a échoué. Du coup, la seule alternative qui nous reste, c'est l'option militaire. Et là, nous disons, effectivement, l'option militaire, c'est bon, mais nous sommes sceptiques. Nous sommes sceptiques quand bien même nous l'encourageons, parce qu'il y a beaucoup d'opérations, Amani Leo, Amani Kamili, Fukinia 1, Kinia 2, qui ont prouvé des limites. Et du coup, nous nous interrogeons sur la sincérité des acteurs, que ce soit des acteurs nationaux, là je parle du gouvernement avec ses services spécialisés, les FRDC, la police et tous les services de sécurité, mais aussi la communauté internationale. Je sens des hésitations dans les paroles, dans les propos du porte-parole de la MONUSCO, car il dit que les opérations ou bien l'action militaire consisterait à mettre la pression, donc c'est juste une pression qu'on veut lancer, et du coup, ça serait comme le fait qu'on blesse juste les choses, on les laisse dans les villages sans l'avoir abattu. Donc, il est important que cette opération militaire que nous soutenons totalement au niveau de la société civile, parce que nous en avons marre de la présence des chefs de l'air sur notre sol congolais, il faut que cette opération se déroule de façon professionnelle par éviter les échecs des opérations IOCP.
Descartes Mpongué, à vous suivre, on a l'impression que vous craignez un peu que tous ces efforts n'aient été fournis pour rien.
Non, notre crainte est fondée par rapport à l'expérience de l'échec de toutes ces opérations que nous avons suivies. Mais sinon, nous sommes unanimes au niveau de la société civile du Sud-Kivu, mais aussi de la population au niveau de la province, qu'il faut mettre fin à la présence des êtres de l'air qui nous causent beaucoup, beaucoup, énormément de torts au niveau de notre province, au niveau de la population. Il n'y a même pas aujourd'hui la possibilité de mener des actions de développement parce qu'ils sont sur notre territoire. Et je pense qu'il faut que les autorités congolaises, avec tout le monde, parce que nous avons suivi qu'au niveau civil, donc là je parle des personnalités civiles du gouvernement, je ne parle pas des militaires, ils veulent qu'on puisse aller aux opérations militaires. Mais nous savons effectivement, on ne peut pas se voiler la face. L'honorable l'ambassadeur Amour, il sait très bien qu'il y a même des rapports du gouvernement congolais, on a dénoncé l'implication de certains militaires, de certaines autorités, tant civiles, politiques et militaires, sur la marche qui se déroule au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, avec la présence des groupes armés. Souvenez-vous juste à titre de rappel que le chef de l'État avait suspendu l'activité, l'exploitation artisanale des minerais à l'est dans les provinces Maniema, Sud-Kivu, Nord-Kivu, parce qu'il s'était rendu compte effectivement qu'il y a les militaires, les policiers et certaines autres personnalités.
Merci.
Qui étaient impliquées dans la mafia avec les groupes armés. Et ça, on sait lire dans l'arrêté du ministre des Mines qui a motivé pourquoi le chef de l'État avait suspendu. Donc, il y a aussi le rapport des Nations Unies qui est clair par rapport à ça. Et ce que nous déplorons, c'est qu'on dénonce les choses, mais on n'arrive pas à sanctionner. Combien de personnes ont été sanctionnées?
Merci.
Pour avoir vendu les armes auprès des groupes armés, pour avoir collaboré avec des FDLR?
Merci Descartes.
Oui, merci beaucoup.
Descartes, je vous redonne la parole tout à l'heure. Baudouin Amouli, allez-y, répondez directement à Descartes Mpongué, qui affirme qu'il n'y a pas sincérité. Il ne sent pas la sincérité dans le chef des différents acteurs, le gouvernement, la MONUSCO. Il sent des hésitations. Il évoque des rapports, des gens qui n'ont jamais été punis, des complicités internes. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, je crois que... il doit se rappeler que le gouvernement avait décidé d'en finir avec le M23 et une action décisive avait été prise contre le M23 et après effectivement des doutes de la part de la population, mais je crois que la population aujourd'hui s'est rendue compte de la fermeté de la RDC avec l'ensemble de ses partenaires de se débarrasser des forces négatives. Le M23 est fini. Je pense qu'il en sera de même des FDLR. Comme vous le savez, on a voulu changer de paradigme. On a voulu absolument que les FARDC frappent. Et on a demandé à la communauté internationale de renforcer la MONUSCO avec des forces spéciales, des forces capables de combattre sur terrain. Il y a eu une résolution importante des Nations Unies, 2098. Et je pense que les choses ont changé et que... les opérations militaires vont être beaucoup plus déterminantes en ce moment-ci. Il ne s'agira pas seulement de faire de petites actions. Non, je crois que c'est décisif. Les forces armées de la RDC savent très bien qu'ils doivent mener des actions qui font la différence. je crois qu'il ne faut pas être sceptique en ce moment-ci. Je crois qu'on doit pouvoir avancer. Alors, deuxièmement, la sincérité des partenaires. Je me demande quel est le partenaire qui n'est pas sincère. Je crois que c'est l'FDLR qui n'est pas sincère dans ce processus. Nous avons voulu considérer l'FDLR comme des partenaires parce qu'ils ont dit nous déposons les armes et nous nous rendons librement, nous ne voulons pas attendre. Alors, on a dit, bon, ok, ça va, en droit militaire, on ne peut pas tirer sur des gens qui se rendent. On leur a donné une chance de déposer les armes et de se rendre. Quelques-uns se sont rendus. Nous les avons envoyés à Kisangani, après les avoir regroupés dans des camps de transit à Kanyabayonga et à Walungu. Bon, certains sont encore là, parce que nous revenons d'ailleurs de l'Ohinja et du Nord Kivu pour le dernier groupe qui a voulu des armés avant le deadline du 2 janvier.
Parmi ceux qui ont désarmé, il n'y a pas des grands commandants des FDLR, il n'y a que
Menu
Frétin, d'après certains observateurs.
Il y a quelques officiers, il y a quelques majors, etc. Il y a quelques officiers parmi eux. Nous regrettons effectivement qu'il n'y ait pas eu des généraux, des colonels, etc. Mais bon, nous avons parlé avec ces gens-là, ils ont promis de sortir, mais ils ne sont pas encore sortis, et malheureusement, le délai s'est écoulé. Voilà.
Voilà, nous allons prendre pour vous, Baudouin Amouli, cette réaction qui nous vient d'où déjà? De Bukavu, voilà, au sud Kivu.
Aimé Chirinda, j'appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province du sud Kivu. Peut-on dire que le gouvernement, les organisations sous-régionales et même la communauté internationale a un agenda caché vis-à-vis des rebelles Hutu rwandais? Selon moi, rien ne justifie, en plus de leur désarmement, leur délocalisation loin du Rwanda, leur patrie. Cela nous amène à réfléchir plus et lorsqu'on mesure la pression médiatique qui annonce ce désarmement forcé, Dieu seul sait si c'est pour le bien du peuple congolais.
Voilà, on est toujours dans les suspicions, les a priori, les gens ne sont pas suffisamment, la population n'est pas suffisamment rassurée, Baudouin Amouli.
Nous voulons rassurer la population que le gouvernement, avec l'ensemble de ses partenaires, sont sincères dans ce processus. Et il est important que le gouvernement puisse avoir le soutien de la population dans ce processus. C'est important, oui, soutien et pression de la société civile sur le gouvernement, c'est très important aussi, mais je peux rassurer que le processus est sincère et qu'on va absolument désarmer l'FDLR. L'FDLR constitue un enjeu dans les analyses stratégiques dans la région. On veut absolument la paix dans la région. Il faut la paix au Rwanda, la paix en RDC. Les FDLR ont été une menace grave pour la paix au Rwanda. Et ils sont une menace terrible pour la paix dans notre pays. À l'heure actuelle, le gouvernement veut une solution durable au Kivu. Et la communauté internationale veut une solution durable dans la région des Grands Lacs. On s'est engagé dans le processus et je crois qu'on arrivera à la solution. En ce moment où je vous parle, le professeur Tumbalwaba est dans la région. Il était ici il y a quelques jours. Il est à Luanda en concertation avec les autorités angolaises. Comme vous le savez, l'Angola préside la conférence des Grands Lacs. Il y aura une rencontre dans quelques jours et je crois qu'il faut attendre cette rencontre. Des hautes autorités de la région vont se rencontrer. Maintenant, nous saurons s'il s'agit d'une réunion ministérielle ou d'une réunion du sommet des chefs d'État. Nous le saurons bientôt après les concertations entre le professeur Tumbalwaba et les autorités angolaises. Et je crois que après cette réunion, je crois que les gens vont se rendre compte de la sincérité, de la fermeté des autorités régionales.
Lieutenant-colonel Félix Bass, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Edith Milonge, je suis à Bukavu au sud Kivu. L'ultimatum donné aux FDLR de leur état effiré, je pense que c'est maintenant le moment où on va décès et la MONUSCO de penser aux dégâts collatéraux que causerait cette nouvelle guerre, étant donné qu'elle est ciblée, habite déjà avec les populations autochtones de la région.
Voilà, il y a l'aspect humanitaire, vous l'avez effleuré dans votre précédente intervention. Il y a également, je reviens au rapport des nations, des experts des onusiens, qui citent deux difficultés dans cette opération de désarmement des FDLR. Il y a d'abord les complicités locales entre l'armée congolaise et les FDLR. Et la deuxième difficulté, les FDLR, la présence des réfugiés rwandais avec les combattants. Comment ça va se passer, toutes ces opérations, et puis comment sécuriser la population civile des Kartempong est également revenu sur ça.
Oui, avant de répondre à votre question, vous me permettrez un peu de clarifier et de rassurer mon cher des Kartempong sur la détermination et de la MONUSCO et les FRDC à mettre un terme aux activités négatives des FDLR qui, comme vous le savez, sèment la violence aussi bien au nord qu'au sud Kivu. Donc, je veux tout simplement lui dire que nous sommes arrivés à un niveau où tous les préparatifs concernant le lancement de cette offensive très prochainement sont vraiment concoctés, planifiés conjointement pour que cette opération puisse se dérouler. Donc, je comprends un peu ces appréhensions par rapport à toutes les guerres qui ont eu lieu entre 2009-2010. Notamment, il a tout à l'heure évoqué Kim Yadeux, tout à fait, mais aussi, je voudrais lui dire que c'est sur la base des leçons qui ont été tirées, justement, de ce qui s'est passé en 2009-2010, tout en précisant que la catastrophe humanitaire qui a été observée en 2009-2010 a été le fait du leadership des FDLR qui ont voulu justement semer le chaos dans cette zone-là. Tout le monde est d'accord que le FDLR présente une menace aussi bien au nord qu'au sud de Kivu, compte tenu de leurs activités négatives. Maintenant, vous me parlez aussi d'un rapport dont je n'ai pas connaissance, je ne sais pas si ce rapport est public, concernant justement ces allégations sur une éventuelle complicité entre l'armée congolaise et les FDLR. C'est vous qui me l'apprenez, parce que je ne suis pas au courant de ce rapport-là.
En tout cas, presse en a fait écho par nos confrères de RFI, pour ne pas les citer.
Mais oui, mais vous savez, encore une fois, on ne peut pas réellement discuter de choses dont on n'a pas connaissance. RFI a peut-être eu une copie ou eu vent de ça. Je ne remets pas en doute ce que RFI a quand même disséminé, mais je dis tout simplement qu'au niveau de la MONUSCO, nous n'avons pas encore reçu de rapport. Alors, comment peut-on commenter sur un rapport dont on n'a pas connaissance? Ce rapport est sur le point peut-être d'être publié, mais il n'a pas encore été publié, en tout cas à ma connaissance. Ceci étant dit, pour mon collègue qui a appelé de Bukavu, je dois dire que ses préoccupations sont légitimes. Parce que justement, comme l'a dit M. Mponge, c'est sur la base de ce qui s'est passé autrefois. Mais je l'ai précisé aussi. Nous avons tiré les leçons du passé. Et aujourd'hui, la planification concernant les opérations militaires ont impliqué tout le monde. Aussi bien les FRDC, comme je l'ai dit, les autres sections substantives de la MONUSCO, parce que je dis que c'est une approche holistique.
Notamment les humanitaires.
Avant même les humanitaires, je parle des sections substantives, je parle des droits de l'homme, je parle de la section de la protection des enfants, etc. Tous ces gens sont impliqués parce que vous savez très bien que dans les groupes armés, il existe des enfants. Donc, d'abord, cette coordination interne au sein de la MONUSCO. En plus de cela, nous avons associé tous les gens qui œuvrent dans le domaine humanitaire. Parce que ce que nous voulons faire, c'est mener des opérations en conformité avec le droit international humanitaire. Parce que tout simplement, nous savons qu'il y aura effectivement des déplacements de population. Mais s'il y a des déplacements de population, il faut forcément ouvrir des couloirs humanitaires. Il faut assister les humanitaires qui viendront porter assistance à tous ces gens-là. Tout ceci dans une approche holistique. Une approche concertée a été décidée en dehors de la planification militaire qui a été rondement menée pendant très longtemps avec nos amis et nos partenaires des FRDC. Et notre détermination est commune pour une fois que les décisions seront prises, de lancer les opérations. Mais comme je le dis, on ne vous dira pas où, on ne vous dira pas quand. Vous comprendrez que c'est pour des raisons de sécurité opérationnelle. Mais nous avons la capacité de frapper partout, merci, rapidement et avec la même détermination pour mettre un terme aux souffrances des populations civiles. Parce que c'est ça, en définitive, notre mandat, protéger les populations,
merci,
civiles.
Merci, lieutenant-colonel Félix Basse. Descartes Mpongé, il y a pour vous cette réaction qui nous vient d'Arou en province orientale.
Nicolas Djadi, d'Arou en province orientale. Cette façon de neutraliser les électeurs est une façon de distraire le peuple congolais, selon moi. Donc, j'ai tout le gouvernement congolais de pouvoir négocier avec celui du Rwanda pour pouvoir efficacement neutraliser ce groupe armé.
Voilà, négocier avec le gouvernement du Rwanda, c'est une assertion qui revient souvent des cartes Mpongé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi je pense que le peuple congolais, nous avons l'obligation morale, et historique et patriotique d'ouvrir les et les bons. On ne peut pas se mettre à défendre de tels discours qu'il faut que le Rwanda négocie avec les FDLR pendant qu'il constitue encore une menace contre le peuple congolais. Voilà pourquoi, si jamais il devait accepter d'être cantonné, je pense que ce n'est pas le gouvernement congolais ou la communauté internationale ou encore toutes les personnes prises de paix qui peuvent refuser de relayer ce plaidoyer, de relayer cette revendication des FDLR. Mais au moment où actuellement il constitue encore une menace contre le peuple congolais, il continue à violer nos sœurs, nos mères et nos épouses, nous devons adopter un langage qui puisse nous épargner de leur présence ici. Et la présence, vous savez, chers compatriotes, que la présence des FDLR ne profite pas au peuple congolais. Ça profite seulement peut-être à quelques individus qui sont en complicité. Et là, je réaffirme encore que les groupes armés ont la complicité, juste de la complicité de certains compatriotes. Et il y a beaucoup de rapports qui sont éloquents dans ce sens-là. Et d'ailleurs même, j'ai évoqué ici l'arrêté du ministre des Mines qui a dit « Nous suspendons l'exploitation artisanale parce que les groupes armés bénéficient de la complicité de certains militaires, ainsi de suite, tout ce que j'ai évoqué. » Mais je voulais revenir quand même à une préoccupation qui me fait peur, parce que l'ambassadeur Amouli ne peut pas dire que les FDLR constituent une menace et au même moment ils les appellent comme des partenaires. Je pense que ça c'est une contradiction. Mais aussi quand on dit, pour nous, nous avons les soucis que ces opérations soient menées de façon professionnelle et nous avons une expérience qui a réussi en République démocratique du Congo et là nous citons l'opération Artemis où il y a eu l'homogénéité des troupes qui ont combattu, qui ont été envoyées sur le front. Parce qu'il faut aussi qu'on peut-être ça rentre dans les stratégies militaires, mais nous voulons qu'il y ait cette homogénéité par rapport aux troupes qui vont mener ces opérations.
L'autre aspect
peut-être que... Oui.
Voilà, le colonel Basse, parce que vous parlez des opérations menées de façon qui devront être menées de façon professionnelle, le lieutenant-colonel Basse a donné un certain nombre d'éléments concernant la protection des populations civiles au cours de ces opérations. Cela vous a-t-il rassuré?
Oui, en fait, nous sommes rassurés par ces propos, mais nous voulons qu'ils aillent à l'acte et que cette fois-ci, cette opération atteigne les objectifs. Et si jamais l'opération ne va pas atteindre les objectifs, c'est-à-dire l'anéantissement total des FDLR, moi je pense qu'il faut mieux peut-être que les autres solutions soient trouvées. Et le consensus interne, c'est aussi, il est très important parce que nous avons vu, par exemple, avant que les Raia Mutombo qui ne puissent pas, je ne suis pas leur porte-parole ici, mais avant que les Raia Mutombo qui ne puissent pas dévier de leur mission, ils ont réussi à protéger les populations civiles, ils ont réussi à chasser les FDLR dans certains territoires de la province du Sud Kivu, malheureusement, eux aussi sont tombés dans les exactions, dans les violations des droits de l'homme, dans l'exploitation aussi illicite des ressources naturelles.
Merci. Donc,
il faut un consensus aussi au niveau interne, et je pense que si nous rentrons dans l'esprit de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça fait nous aller, ça fait nous faciliter plus, mais aussi dans l'esprit de l'accord d'Addis Abeba qui plaide pour que nous soyons unis au niveau de la République démocratique du Congo.
Merci Descartes Mpongue. Je rappelle qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Baudouin Amouli, dans le communiqué du gouvernement du 2 janvier 2015 dernier, je vais lire un extrait. Au lieu de désarmer, au contraire, selon le communiqué, les FDLR ont continué à perpétrer des violations des droits de l'homme contre des personnes innocentes dans l'est de la RDC, à recruter des combattants et à poursuivre leur agenda politique illégitime. Il y aura des opérations militaires, on va désarmer ces FDLR, ne devront-ils pas être jugés pour payer de leurs actes?
Bon, je crois que ce qui a été dit très clairement, c'est que ceux qui sont sous les sanctions des Nations Unies demeurent sous les sanctions des Nations Unies. Ceux qui sont poursuivis par une justice internationale demeurent poursuivis par la justice internationale. Ceux qui estiment qu'ils ne sont poursuivis par personne,
malgré les exactions,
oui, nous les encourageons, bien sûr, dans ce processus de désarmement volontaire. Nous avons voulu donner la chance à la paix. Et vous savez que chaque fois le président de la République a voulu donner une chance à la paix, la région des Grands Lacs veut donner une chance à la paix, la communauté internationale veut donner une chance à la paix. C'est pourquoi dans ce processus de désarmement volontaire, l'interlocuteur principal ici, c'est l'FDLR. Nous avons été les voir sur le terrain. Ils nous ont rassurés qu'ils voulaient absolument se désarmer volontairement. Nous leur avons transmis le message des chefs d'État, qui était très clair. Si à la date du 2 janvier, vous n'avez pas fini, vous allez vous exposer aux opérations militaires. C'est très clair et net. Donc, ça n'a pas changé,
Et donc, vous restez vous restez optimiste quant à l'avenir de ce processus.
Le 2 janvier... Le délai qui a été donné par les chefs d'État est terminé. Nous allons sans doute et sans faute et sans atermoiement vers des opérations militaires. Ça, c'est clair.
Alors, en guise de conclusion, parce que l'émission tend déjà vers sa fin, Descartes Mpongue parlait du consensus national. En un mot, qu'est-ce que vous en pensez?
Nous voulons absolument un consensus national. Nous voulons que dans ce processus, la population congolaise, l'ensemble de nos partenaires soutiennent la volonté du gouvernement de la République. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais peut-être rappeler que dans ce processus, le dialogue avec le Rwanda n'est pas exclu. Déjà, dans le processus avec le M23, nous dialoguons, nous travaillons avec le M23. Donc, dans ce processus, nous discutons avec le Rwanda au niveau de la CIRGL et de la SADC, et dans les actions qui vont suivre, il n'est pas exclu que nous puissions dialoguer également avec le Rwanda sur la meilleure façon de répatrier les FDLR.
Merci. Lieutenant-colonel Félix Sabas, comment vous entrevoyez la suite de cette opération contre les FDLR?
D'abord, je vais rapidement répondre à mon ami Pongé qui est à Bukavu, parce qu'il a parlé tout à l'heure d'extermination des FDLR. Je ne sais pas si on s'entend très bien sur la formule extermination, mais moi je pense que tout ceci est mis en œuvre justement pour ramener la paix en RDC. Il ne s'agit pas d'un massacre à grande échelle que les FRDC et la MONUSCO se préparent à accomplir. Il faut qu'on s'entende très bien. Les opérations militaires ont pour but de les désarmer de force afin qu'ils puissent entrer de force dans une procédure qui est le DDR afin qu'ils soient rapatriés chez eux. Il ne s'agit pas de les tuer. La deuxième précision que je voudrais faire, il ne faut pas confondre les combattants FDLR et les réfugiés FDLR. Des efforts conséquents ont été faits pendant tout le temps où la MONUSCO a été ici. On a eu à rapatrier entre 11 000 et 12 000 combattants au Rwanda. La troisième précision que je voudrais faire, il a parlé d'homogénéité des troupes. Je voudrais tout simplement lui rappeler que Artemis est certes un exemple sur lequel il faut se focaliser, mais à la MONUSCO, c'est une mission, c'est un mandat, c'est une force.
on est homogène. Merci. Et déterminé à remplir notre mandat.
Merci. Descartes Mpong, juste un mot pour terminer.
Un mot, c'est que nous, on a parlé de l'anéantissement, donc couper les sources d'approvisionnement, les rendre incapables de rééditer les massacres, ainsi de suite. Nous soutenons l'opération et merci. Nous appelons que tout le monde soit sincère et très déterminé.
Merci. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net. Au revoir.